Il y a tellement, tellement, tellement de choses à reconsidérer aujourd'hui qu'en fait, faut, je pense, être prêt à se remettre en question et à évoluer sur certains sujets aussi. Je pense que c'est ça le plus compliqué en fait. On a nos croyances, on a l'impression qu'on a raison. Mais en fait, il faut être prêt à accepter qu'en fait, non, ce qu'on fait depuis X années, bah, c'est pas forcément bien, quoi. On peut faire mieux, on peut faire différemment.
Salut et bienvenue à toi, amateur d'écologie, mais aussi individu soucieux du bien-être de ton porte-monnaie. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de la Terre dans les épinards. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Basile Gentil, cofondateur de Nomad Surfing, une entreprise bordelaise de fabrication de surf et d'accessoires de surf éco-responsable, avec qui j'ai eu une discussion très intéressante, notamment sur les sujets de l'impact du surf bah, sur l'environnement et du modèle d'économie circulaire et locale mis en place par Nomad Surfing pour tenter de réconcilier l'un et l'autre. Je te souhaite une très bonne écoute et j'espère que cet épisode te plaira.
Salut Basile.
Salut.
Tu vas bien ?
Très bien, et toi ?
Ça va, merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation à échanger dans le cadre du podcast de la Terre dans les épinards. Est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par une présentation ? Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer ?
Ouais, bah alors moi je m'appelle Basile Gentil, je suis originaire de Millau dans l'Aveyron. Et j'ai un parcours d'études d'école d'ingénieur où j'ai rencontré un de mes associés, okay. Thomas. Et en fait, j'ai fait une école d'ingé agro, donc rien à voir avec, avec mon activité aujourd'hui. Mais voilà, suite à moult péripéties, on en est arrivé à créer une marque de surf. Ouais.
Les études, on peut changer après par rapport à ce qu'on fait en général.
Ouais, ouais,
tout à fait. Évoluer. Ouais. Mmh. Ouais. Ok, donc école d'agro.
Ouais, école d'agro. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans l'industrie agro, industrie agroalimentaire pendant une petite dizaine d'années, où j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager parce que je travaillais à l'international sur des projets de construction d'usines notamment. Et puis là, j'ai aussi pris conscience de la tournure des choses globalement. Et j'ai eu envie d'autre chose, et j'avais aussi envie d'entreprendre et de pouvoir créer quelque chose qui allait plus dans la direction de ma vie et de ce que j'avais en tête. Et c'est là qu'on en est venu à créer Nomads avec deux amis, donc Nico et Thomas. Donc ça, c'était en 2018, c'est là qu'on a lancé Nomad Surfing, ouais.
Mmh, ok. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur Nomad Surfing, présenter un petit peu ce que c'est et quel était, quand vous avez lancé ça, du coup, quelle était la genèse de ce projet ? Pourquoi vous avez lancé ce projet-là spécifiquement ? Vous êtes surfeurs tous les trois, du coup ?
Ouais, tout à fait, ouais.
Ouais, et du coup, vous êtes parti de... Quelle est la genèse du projet ?
La genèse du projet, c'est qu'on est tous les trois passionnés de surf, on a eu l'occasion de surfer dans des endroits incroyables et on est passionné par l'océan. Et en fait, on s'est rendu compte, notamment beaucoup en Asie du Sud-Est, là où on a été expatrié pendant quelques années, que l'état de l'océan était vraiment, vraiment, vraiment avancé, quoi, en termes de dégradation des écosystèmes, de pollution plastique. Et en tant que surfeur, c'est notre terrain de jeu, c'est là où on pratique plusieurs fois par semaine, donc c'est un environnement qu'on veut protéger comme quelqu'un qui fait du trail à la montagne ou de l'alpinisme ou de l'escalade. C'est en fait, on évolue dans un milieu naturel et on s'est dit en fait c'est pas possible de vivre de notre passion et de laisser cet écosystème périr entre guillemets. Donc l'idée c'était de pouvoir apporter quelque chose de différent parce que le surfeur est très conscient de ça, a envie de protéger son écosystème mais en même temps consomme des produits fabriqués dans des conditions assez déplorables en utilisant des matériaux vierges issus du pétrole et fabriqués à l'autre bout du monde. Donc voilà, l'idée c'est il y a un peu un gap entre cette envie de protéger son écosystème et la manière dont on consomme en tant que surfeur. Et il n'y a non plus pas vraiment d'offres adaptées. Donc l'idée, c'était de proposer cette offre et de proposer aujourd'hui aux surfeuses et surfeurs qui veulent protéger l'océan et consommer différemment, leur donner les clés pour utiliser un matériel qui a un impact moindre, qui a un impact, ça c'est certain, mais moindre par rapport à ce qu'on peut trouver globalement sur le marché, quoi.
Ok. Et quand tu dis du coup que vous constatiez l'impact, enfin, ou du moins l'état de l'océan, c'était quoi le constat ? C'était surfer au milieu de déchets plastiques,
Ouais, c'était surfer au milieu de déchets plastiques, ça c'est clair. À Bali ou en Indonésie, on surfe littéralement dans des déchets plastiques. Souvent, il y a des super vagues à l'embouchure des rivières. Et là, on surfe littéralement dans les déchets qui arrivent de la rivière. Et sachant que là-bas, il n'y a pas de système de collecte et de traitement de déchets comme on peut le connaître chez nous, en fait, les gens jettent soit dans la nature, soit directement dans la rivière. Et donc, ça finit directement dans l'océan. Il y a aussi énormément du coup de matière organique qui arrive parce qu'il n'y a pas forcément de traitement d'eau comme on le connaît nous ici. Du coup, il y a des coraux, puisque c'est quand même des mers et des endroits où il y a des barrières coralliennes. Et en fait, ces coraux, ils sont complètement asphyxiés, donc ils meurent. Donc en fait, il n'y a plus vraiment d'écosystème sous-marin. Et en plus de ça, il y a une pollution plastique monumentale. Donc c'est vraiment cette prise de conscience de se dire ce qui était peut-être dans les années 60-70 un endroit paradisiaque, aujourd'hui est complètement trashé et il n'y aura pas de retour en arrière en fait. Difficilement. Donc ça, c'est perdu. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour protéger ce qui peut encore l'être, quoi.
Pour limiter les dégâts.
Tout à fait, ouais.
Et du coup, au niveau du surf, du coup, tu dis que le matériel utilisé ou la pratique du surf a un impact aussi. Et cet impact, il se retrouve à quel niveau ? Au niveau des matériaux utilisés, c'est ça, d'utiliser des matériaux issus du pétrole. Et au niveau de la production aussi, du matériel.
Ouais, l'impact premier, je pense que c'est vraiment les matériaux utilisés. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, si on prend l'exemple d'une planche de surf, globalement, c'est de la mousse. C'est une âme en mousse, qui soit polystyrène, soit polyuréthane, recouverte de fibres de verre, puis de résine. Donc en fait, on est sur un 100% issu du pétrole et des dérivés du pétrole. Aujourd'hui, il y a d'autres alternatives, il y a des planches en bois. Mais en fait, le cœur du marché, les 98% des planches qui se vendent dans le monde, c'est ce genre de planches. Donc c'est clairement un impact fort. Et ensuite, le fait que ce soit produit pour la majeure partie en Asie, donc en Thaïlande et Chine notamment, puis expédié par container en Europe, aux États-Unis, en Australie, ça a aussi un impact. Alors là, c'est pas le même impact parce que, enfin, le transport maritime va surtout avoir un impact direct sur l'océan pour plein de raisons, parce que les containers sont sur des porte-containers qui ont des eaux de ballast, enfin, qui transportent des eaux d'une mer à l'autre et qui contaminent les milieux parce qu'ils roulent, enfin ils roulent pas vraiment, mais ils utilisent des fuels lourds pour avancer. Donc il y a un impact, il est moins, parce qu'en fait je détaille ça parce que nous à une époque on avait fait une analyse du cycle de vie de nos planches versus une planche fabriquée en Asie avec des matériaux différents des nôtres, et on voyait qu'il y avait un gap d'à peu près 25%, ce qui n'est pas énorme, mais pour nous, c'est déjà un grand pas en avant de dire notre planche, d'un certain côté, elle émet 25% moins de CO2. Mais en fait, ça, c'est que quand on se concentre sur le CO2. Après, il y a plein d'autres effets, comme ce que je viens de dire, d'autres impacts sur l'océan, l'acidification des milieux, etc. Donc, je ne sais plus quelle était la question.
C'est vrai que. La question de départ, c'était effectivement quel est l'impact. Qu'est-ce qui a un impact dans la pratique du surf ou dans le matériel utilisé. Après, c'est vrai, oui, comme tu dis, on se concentre beaucoup aujourd'hui parce qu'on parle de réchauffement climatique, on se concentre beaucoup sur l'empreinte carbone. Mais il y a aussi d'autres impacts, effectivement, qu'il ne faut pas négliger. Ouais.
Tout à fait.
Et du coup, c'est le fait que ce soit produit essentiellement à partir de pétrole, c'est que les procédés pour produire des planches en bois, par exemple, sont trop coûteux, sont pas assez développés, ou sont...
Ouais, c'est complètement ça. En fait, aujourd'hui, c'est de l'artisanat, c'est ultra manuel. On peut pas, à ma connaissance, personne ne fait des planches en bois autre que de façon artisanale. Donc c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus complexe. Donc à la fin, c'est beaucoup plus cher. Voilà. Donc, et aujourd'hui, le consommateur n'est pas non plus habitué à passer de ce qu'il a connu toute sa vie à une planche en bois. Donc il y a aussi ce côté éducation et sensibilisation. Donc oui, aujourd'hui, le principal frein à ces planches, typiquement, c'est le côté artisanal et le fait que ça reste des produits très onéreux. Ouais.
Et il y a une différence dans la pratique, uniquement, toi qui es surfeur, dans la pratique, si tu as une planche en bois et une planche...
Je t'avoue que je n'ai jamais testé de planche en bois. Donc je ne peux pas te répondre là-dessus.
Est-ce qu'il y aurait une différence, justement, qui pourrait aussi expliquer peut-être...
Non, je pense que techniquement, pour la majorité des pratiquantes et pratiquants, je pense qu'il n'y aurait quasi pas de différence. Quoi. Si ce n'est que c'est peut-être un peu plus lourd... Mais si la planche est bien faite, je pense qu'elle pourrait convenir à tout le monde. Donc c'est pas. Okay. Mais après, j'ai pas testé, je peux pas vraiment dire quelles sont les différences, etc. Je peux pas tout.
Ok, ça marche. Et du coup, donc le projet Nomad Surfing qui est né de tout ça, de tous ces constats-là d'impact. En termes de durabilité, d'éco-conception, quelles sont les lignes suivies par Nomad Surfing justement pour changer tout ça?
Nous, on a toujours pris le pari déjà de fabriquer localement. Alors pour nous, localement, c'est quand même l'Europe. Hein. On fait beaucoup de choses en France, mais on parle plutôt d'Europe. Parce qu'aujourd'hui, typiquement, on fait nos planches, la majeure partie de nos planches sont fabriquées au Portugal, où l'industrie du surf est quand même bien développée, où il y a des gens qui travaillent très très bien. Et du coup, c'est là-bas qu'on a commencé dès fin 2017 à concevoir les premières planches. Nous, l'idée, c'est d'avoir un cahier des charges avec des matériaux alternatifs. Donc on utilise des résines biosourcées à 40%. On utilise des pains de mousse polystyrène recyclables et en partie recyclés. Aujourd'hui, là, toutes nos planches vont passer en 100% recyclées. C'est-à-dire que toute la mousse qu'on utilise à l'intérieur de la planche provient d'un premier cycle de vie, que ce soit dans un carton de télé ou dans de la mousse qui est utilisée dans le BTP. On récupère cette mousse, on la re-réduit, et on la re-expanse et on la réutilise pour nos planches de surf. On utilise aussi pas mal de fibres naturelles comme le lin. Pour fabriquer nos planches. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'apporter...
France,
alors en Europe, principalement. Aujourd'hui, on utilise du lin qui vient d'Ukraine. Il y a aussi une culture en France, mais qui n'est pas forcément la plus développée. Enfin, il y en a beaucoup en Belgique, enfin, il y en a beaucoup en Europe, globalement. Donc nous, on se fournit à des industriels français, mais qui font pousser le lin, notamment en Ukraine. Et ensuite, on a développé toute une gamme d'accessoires qui va autour de la planche. Donc l'accessoire de la planche, c'est les ailerons qui vont sous la planche, c'est le pads qu'on met à l'arrière de la planche pour que ça fasse grip sous le pied arrière. C'est le leash qui retient le surfeur à sa planche. Et en fait, tous ces produits, on les a développés avec la même idée de matériaux alternatifs. Donc les ailerons, on les a développés en filet de pêche recyclé. Donc les filets sont récupérés chez les armateurs directement dans les ports pour être revalorisés. Donc nous ensuite on utilise cette matière qui est remise entre guillemets dans le circuit de la matière première à l'état de bille qu'on va injecter dans les moules pour en faire des ailerons. Nos pads on les fait dans les Landes à Souston avec du liège. Donc là c'est pour la majeure partie du liège qui vient de bouchons de vin recyclés. Donc d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a des petits centres de recyclage dans les supermarchés pour les bouchons et qu'il ne faut pas les mettre dans les poubelles habituelles parce que sinon ils ne sont pas recyclés.
Ça peut resservir.
Ouais. Mmh. Et nous, on s'en resserre pour en faire des grips sur les planches. Et ensuite, les leashes, on les fabrique entre Clermont-Ferrand et Bordeaux. Et là, la particularité, c'est qu'on utilise, en fait, il y a ce qu'on appelle un strap ou un collier à la cheville. Un scratch, et nous on utilise une sangle qui est en fait de la ceinture de sécurité de voiture qu'on récupère dans les casses auto. Et on récupère aussi du néoprène, donc des combinaisons de surf ou autres en fin de vie au niveau des clubs de surf, des écoles. Et du coup, ça nous permet de revaloriser ces matériaux qui sont perdus, en fait, qui sont voués à être jetés pour en faire un nouveau produit et les relancer sur un nouveau cycle de vie. Donc nous, c'est vraiment l'économie circulaire, notre maître mot. C'est vraiment réutiliser un déchet pour en faire un nouveau produit et trouver des alternatives à ce qui existe aujourd'hui sur le marché.
Mmh. Oui, effectivement, beaucoup de récupération. Et quand justement on arrive sur un nouveau modèle de fabrication de matériel de surf, du coup, enfin un modèle plus circulaire, c'est juste en termes d'expérience entrepreneuriale, ça a été, c'est difficile de mettre en place un nouveau modèle comme celui-là, ou c'est difficile comme une entreprise, mais enfin comme une démarche entrepreneuriale, mais ça se fait, c'est possible de trouver des fournisseurs, c'est possible de récupérer des matériaux, c'est quelque chose qui est quand même faisable, quoi, sans que ce soit une entreprise non plus.
Alors sur la partie développement produit, ça reste difficile, hein, c'est long et il faut trouver les bons intervenants. Il y a beaucoup de tests non concluants, enfin le nombre de choses qu'on a testées dont on parle même pas.
C'est une partie de recherche.
Parce que ça fonctionnera pas et qu'on a laissé tomber. Ça c'est une grosse partie de l'iceberg.
Ouais.
Et ensuite le reste, c'est trouver les bons partenaires. Ce qui n'était pas évident pour nous, c'est déjà que notre taille, on est une toute petite structure, on veut développer un produit complètement nouveau avec des acteurs qui n'ont jamais entendu pour la plupart parler de surf ou de produits de surf, parce qu'en France, il n'y a pas vraiment de fabricants d'ailerons en France à l'échelle industrielle qui injectent des dérives. Enfin, maintenant, il commence à y en avoir, mais je veux dire, en 2017-2018, quand on a commencé, personne connaissait ça. Donc on prospecte, on voit beaucoup de monde, on essaie de trouver les bons acteurs qui ont aussi la flexibilité de travailler avec des petites entreprises. Parce que là, on parle de fournisseurs qui sont dans l'industrie plastique, typiquement, qui produisent des milliers de pièces en série. Et nous, on arrive avec des petites quantités, beaucoup d'essais, des matériaux recyclés dont on ne connaît pas vraiment les caractéristiques. Donc, il faut vraiment aussi une ouverture d'esprit chez nos partenaires qu'on a trouvé, donc on a quand même eu pas mal de chance. Mmh. Et aujourd'hui, on travaille toujours avec les mêmes. Donc, c'est aussi ça pour nous la réussite, c'est que on construit une vraie relation avec ces fournisseurs-là, qui est dans la durée. On fait évoluer les produits ensemble, on développe même des nouveaux produits ensemble, avec des gens qui, à la base, ne connaissent pas le surf. Mmh. Donc, c'est super intéressant. Donc, c'est compliqué, mais une fois qu'on a trouvé les bons contacts et qu'on lance la machine, après, ça ouvre les portes sur beaucoup de choses.
Ouais. Trop bien. Ouais. Et du coup, il reste, in fine, du plastique qui serait pas issu d'une... Enfin, ou un matériau qui serait pas issu d'une filière de récupération de matériaux. Il reste du plastique qui est nouvellement créé pour fabriquer du matériel dans...
Dans nos produits ?
Ouais, dans vos produits. Ouais, c'est une infime part.
Il en reste, ouais, il en reste. Si je prends, par exemple, le leash. Le leash, il y a beaucoup de parties plastiques. Et on utilise notamment du TPU, qui est un plastique assez technique, qui est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de filière de recyclage. Donc nous, on utilise ce qu'on appelle du recyclage industriel, c'est-à-dire qu'on prend les chutes dans la même usine, on prend les chutes, on les réutilise.
Okay.
Donc c'est pas vraiment... c'est pas un produit qui arrive en fin de vie qu'on a recyclé. C'est quelque chose qui se passe sur la ligne de production. Donc ça permet de limiter les pertes. Et pas tout le monde le fait, donc nous, on le fait. Mais ça reste que, aujourd'hui, ça reste du plastique qui n'est pas issu du recyclage, par exemple. Ensuite, sur les pads, on a quasiment... si ce n'est pas du liège recyclé, c'est du liège qui provient de l'écorce de l'arbre. Mmh. Donc, ça reste un matériau naturel et durable. Et ensuite, les dérives, on utilise toujours 100% de plastique recyclé. Par contre, des fois, on ajoute des charges. Ce que j'appelle des charges, c'est par exemple de la fibre de verre qui va permettre de rigidifier l'aileron, puisque plus un aileron sera rigide, plus il sera performant, donc ça nous permet d'avoir différentes gammes de produits. Donc on rajoute une partie, donc typiquement il y a des ailerons qui sont, on va dire, en plastique recyclé à 70% avec 30% de fibre de verre. Donc voilà, okay. On fait pas du 100% partout.
C'est limité déjà, c'est déjà très bien, oui, bien sûr. Enfin, c'est compliqué en plus de passer d'un modèle 100%
C'est clair.
100% plastique, un modèle circulaire.
100% recyclé.
100% recyclé. Ok. J'avais une question. Oui, c'était du coup par rapport. Vous avez fait une analyse de cycle de vie du coup de vos planches. Mmh. C'est pour revenir du coup au fait que vous produisez localement aussi, donc vous essayez de limiter l'empreinte carbone de vos planches, de votre matériel. Au niveau de la vente de Nomad Surfing, vous visez un public qui est sur l'Europe, qui est dans le monde, qui est en France, qui est...
La majorité de nos clients sont quand même en France. Hein, c'est quand même là où on communique le plus et là où on travaille le plus pour vendre nos produits et distribuer la marque et faire parler du projet. Après, on commence quand même à se développer en Europe. L'idée qu'on a, nous, c'est quand même d'être un acteur européen du surf et d'être une référence du surf durable, on va dire, du surf éco-conçu en Europe. Mm. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on a. Après, ça reste aujourd'hui anecdotique, hein, ce qu'on fait chez nos voisins, mais c'est un début et on fait des ventes en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal. Mais ça reste anecdotique par rapport à ce qu'on fait en France. Ouais. Mais l'idée, c'est quand même de se développer en Europe.
Mmh. Ok, très bien. Et autre question, ça c'est concernant les casquettes, je crois, et les gourdes. Je crois que c'est les seuls produits que vous ne pouvez pas produire. Enfin, je ne sais pas si vous ne pouvez pas produire en Europe. Mmh. Et moi, c'est une question, c'est un truc qui m'a toujours interpellé, c'est-à-dire que trouver des casquettes qui sont fabriquées en Europe, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, quoi.
Ouais, c'est compliqué. Tu vois, aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, on n'a même plus de casquettes. On ne sait pas ce qu'on va faire sur la prochaine série, quoi. Donc, c'est un produit qui est important, surtout dans l'univers surf, lifestyle. Les casquettes, tout le monde en porte, surtout l'été, avec les chaleurs qu'on a en ce moment. Aujourd'hui, on fait des bobs en France. Donc typiquement, c'est encore autre chose, mais on fait toujours pas de casquettes en France ni en Europe pour l'instant. Alors je suis sûr qu'il y en a, on les a pas trouvées ou on les connaît pas, ou alors ça coûte vraiment trop cher et ça reste malgré tout quelque chose qu'on doit prendre en compte pour les clients. Mais oui, c'est compliqué. On peut personnaliser des casquettes en France, ça il y a pas de problème, mais elles viendront toutes d'Asie et du bout du monde, donc ça reste quelque chose de compliqué. La gourde, pareil, très beau symbole. Tout le monde a des gourdes en inox, mais aujourd'hui, les machines pour faire des gourdes en inox, elles sont toutes en Asie. Et en Europe, personne n'a de machines qui permettent de concevoir des gourdes isothermes en inox de cette manière. Donc, il y en a qui font des gourdes en verre, notamment. Il y en a qui font des gourdes en plastique recyclé en Europe. Mais oui, nous, aujourd'hui, la gourde, on s'est posé la question. Et après, on s'est dit, est-ce qu'il vaut mieux avoir une gourde pour éviter de consommer des bouteilles plastiques à longueur de temps? Donc, nous, on a pris cette option-là en disant, la gourde, elle vient de loin, mais en même temps, notre idée, c'est d'arrêter le plastique et d'arrêter d'en mettre partout. Donc, c'était ce parti qu'on a pris. Mais oui, c'est deux produits qui sont
éviter d'avaler du plastique aussi.
C'est un peu compliqué, ouais.
Donc, à faire. Aussi, ouais. Mais c'est marrant, parce que comment ça se fait du coup que les casquettes soient compliquées de...
Alors nous, vraiment chez Nomads, on n'est pas des spécialistes de toute la partie textile. On en fait parce que ça nous parle et on aime aussi diffuser l'image de notre marque, mais ça reste anecdotique.
Donc vous n'avez pas forcément concentré
vos efforts dessus. On n'a ni concentré beaucoup d'efforts dessus, et en plus de ça, on n'a pas en interne forcément les compétences dans le textile. On a des contacts, des gens avec qui on travaille, notamment sur nos gammes de t-shirts, etc., qui eux sont calés sur le sujet. Mais on n'a pas poussé encore vraiment le curseur pour aller développer tout ça, mais ça ne saurait tarder.
Ouais. Ok, très bien. Et du coup, dans la logique de la circularité de la fabrication, vous avez aussi un site de seconde main, c'est ça? Vous avez mis en place un site de seconde main. Comment ça se passe
L'idée, donc pour revenir, nous, notre créneau, c'est de dire la meilleure planche, c'est une planche qui est déjà sur le marché. Qu'on achète à son pote, qu'on achète à quelqu'un qu'on connaît ou pas d'ailleurs. Et l'idée, c'est qu'on nous demande régulièrement aussi de, bah, voilà, est-ce que vous avez des planches nomades, seconde main Et en fait, pour répondre à cette offre, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Resurf, où on met en vente des produits de seconde main, où chaque personne qui possède une planche nomade et qui veut la revendre peut la revendre sur notre plateforme. Donc l'idée, c'est de dire, bah, vu que sur notre site, il y a des gens qui cherchent des planches nomades, s'il y a en plus des planches d'occasion, ça peut matcher. Et on vend aussi d'autres produits comme des dérives de démo ou autres qu'on a utilisés nous. Et en fait, c'est de dire, bah, donner une seconde vie au produit, permettre bah, du coup d'allonger la durée de vie de ce produit et donner aussi l'opportunité aux gens d'avoir accès à du matériel de seconde main, moins cher, mais tout aussi performant. Voilà, c'est un peu l'idée de cette plateforme, Resurf. Ouais.
Ok, très bien. Et du coup, en dehors de ça, c'est tout l'aspect un peu éco-conception et donc, comme on disait, circularité. En dehors de ça, vous avez aussi des engagements ou des actions que vous menez, plus de sensibilisation ou de fonds récoltés pour des associations.
Ouais.
Vous avez créé un mouvement qui est One Ocean for All.
Tout à fait.
Je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Ouais, alors à la genèse de Nomads, si on revient un peu en arrière, l'idée aussi c'était de créer une entreprise avec des valeurs un peu différentes de ce qu'on pouvait trouver ailleurs. Donc c'était vraiment de dire on va faire de l'éco-conception, mais on va aussi s'engager pour la protection de l'océan de manière concrète et donc soutenir des projets en lien avec ces sujets-là. En dédiant un pourcentage de nos ventes, donc tout le monde connaît le 1% for the planet. Nous, l'idée, c'était de dire, bah, on va dédier 5% de nos ventes pour des projets associatifs. Donc au début, c'était anecdotique puisqu'il y avait peu de ventes. mais voilà, ça reste un engagement fort. Et en fait, on avait sélectionné 3 assos partenaires pour les aider à subventionner leurs projets tout au long de l'année. Et puis ça s'est développé jusqu'à le lancement de ce mouvement One Ocean for All, où là on s'est dit bah, on sera plus fort si on est plus nombreux. Donc on va lancer un mouvement, on va sélectionner des projets en lien avec l'océan, donc sur 3 thématiques. Il y avait l'éducation, la sensibilisation, la dépollution et la protection du récif corallien. Donc on a pris un projet par thématique. Et on a pris notre bâton de pèlerin et on est allé voir tous les partenaires avec qui on travaille, des entreprises, des institutionnels, différentes organisations, pour leur dire, voilà, est-ce que vous voulez contribuer avec nous à soutenir ces projets et du coup à les financer. Donc on avait une grille, en fonction du nombre de salariés, du chiffre d'affaires, une grille de contribution. Par entreprise. Et ensuite donc on a récolté j'ai plus le montant, mais un peu plus de 10 000 euros il me semble, pour financer ces projets là et l'idée en suivant c'était ça avait quand même bien marché, on a eu des retours assez positifs, des entreprises qui avaient envie de s'engager à nos côtés, à qui la thématique parlait. Et du coup on a créé un fonds de dotation qui s'appelle Nomads Ocean Care aujourd'hui, qui permet toujours sur les mêmes thématiques de subventionner des projets à impact pour la protection de l'océan. Donc on continue de solliciter nos partenaires, on continue nous d'abonder ce fonds de dotation avec l'argent de l'entreprise et les ventes qu'on fait. Mais ce qui est en fait la force de ce fonds, c'est que ça permet de capter aussi des dons d'autres entreprises et de concentrer et d'avoir un peu plus de matière et de fonds en fait pour pouvoir subventionner des projets sur la durée et des projets de plus en plus significatifs.
Ok. L'historique, du coup, si j'essaie de récapituler, c'était vous donniez 5% de votre chiffre d'affaires à des associations. Vous avez voulu un petit peu élargir à d'autres entreprises. Et donc, vous avez créé ce mouvement One Ocean for All, qui était un peu, comme on disait, un one-shot. C'est-à-dire que vous l'aviez fait une seule fois. Et vous avez voulu pérenniser ça en créant une espèce de fonds, enfin un fonds qui est une espèce de réseau finalement auquel les entreprises donne 5% aussi de leur chiffre d'affaires. C'est 5% aussi ou c'est selon la taille de l'entreprise,
enfin, Non, là par contre aujourd'hui le fonctionnement du fonds de dotation c'est ils donnent c'est, ce qu'ils c'est veulent ce quand qu'ils veulent. Okay. C'est pas, y a pas de règles. Le principal acteur du fonds ça reste Nomad Surfing. Mais voilà, ça nous permet de mener des campagnes spécifiques sur tel ou tel projet et d'avoir des fonds qui viennent d'autres entreprises à un moment donné. Quoi.
Ok. Et vous avez, pour avoir un ordre de grandeur, vous avez du coup levé, enfin récolté combien de...
Alors le fonds de dotation, il est assez nouveau, hein, parce qu'on a fait on a fait l'inauguration au début de l'été, là.
Ah oui, d'accord.
Donc pour l'instant, c'est récent. Voilà, c'est récent, il y a beaucoup de pourparlers, mais ça va prendre forme rapidement.
Ouais. Ok. Bah super. Sensibilisation, effectivement, ça passe par là.
Exactement.
En grande partie. Hein. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire, donc selon toi, selon l'observation que tu en as de ton expérience de surfeur et aussi du coup d'acteur, enfin, d'entreprise, quoi, du secteur, où est-ce qu'on en est un petit peu, même si on en a parlé un peu, de l'état de l'océan actuellement, le degré d'urgence, les actions qu'il faudrait mettre en place pour essayer de changer un peu tout ça. Et puis éventuellement ce que on peut faire, ce que le consommateur, ce que le surfeur ou ce que n'importe quelle personne qui ne surfe pas forcément peut faire pour. Il y a beaucoup de questions là.
Dans, ouais, vaste sujet.
On va essayer de prendre les choses une par une. Mais...
Une par une, la situation elle est critique, mais comme à beaucoup d'autres endroits sur la planète, pas que pour l'océan, mais c'est vrai que l'océan ça reste un moteur de la vie humaine sur Terre. Donc, c'est sûr que la situation, il faut qu'elle évolue rapidement dans le bon sens. Après, il y a des choses qui sont enclenchées et de toute façon, il y a tellement d'inertie dans les processus que tout ça avance hein, dans un schéma qui n'est pas forcément celui qu'on aimerait voir. Après, il y a plusieurs choses. Il y a le réchauffement climatique, certes, mais il y a aussi la perte de biodiversité. Qui est dû pour le coup à notre action en tant qu'humain et à nos modes de consommation alimentaire principalement. Aujourd'hui, la principale cause de déclin de la biodiversité dans l'océan, c'est la surconsommation des ressources. Donc c'est nous qui mangeons trop de poissons globalement. Alors que sur Terre, c'est la principale cause de perte de la biodiversité sur Terre, c'est l'artificialisation des sols. Donc c'est marrant de voir que c'est pas tout à fait la même chose et qu'en fait moins manger aujourd'hui de poisson comme moins manger de viande mais peut-être pour d'autres raisons aujourd'hui moins manger de poisson c'est aussi libérer énormément de pression sur l'écosystème marin et en fait cette biodiversité marine fait que aujourd'hui on respire de l'oxygène et l'océan en produit parce que y a toute une chaîne de biodiversité qui agit pour produire de l'oxygène. Donc en fait, ça c'est quelque chose de primordial. Et ensuite, le réchauffement climatique, la production de gaz à effet de serre fait que l'océan se réchauffe et s'acidifie. Donc c'est aussi un autre problème qui là, par contre, est sur des processus longs. Donc il y a beaucoup d'inertie dans ce système-là. Donc de toute façon, ça va. L'eau va continuer à se réchauffer, je veux dire, même si aujourd'hui on arrête tout, ça continuera quelques temps à se réchauffer. Mais il y a des choses à faire. Après, il y a aussi pour moi la notion de conservation qui est importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le récif corallien, par exemple, il en reste très peu, mais on sait comment le conserver. On sait qu'il est possible de faire des choses pour protéger des îlots de biodiversité, en fait, en limitant la pêche, en faisant de la régénération du corail, en protégeant ces zones-là, on est capable de les protéger.
C'est bien de le dire, parce qu'effectivement, souvent, on a ce côté un petit peu pessimiste en disant que de toute façon, tout est fichu et qu'il n'y a pas de solution. Donc, c'est bien d'entendre ce genre de choses.
Il y a plein d'exemples en fait, qui montrent que quand on fait vraiment de la protection à des niveaux avancés, c'est-à-dire qu'on interdit toute pêche, qu'on monitore le corail, qu'on essaie vraiment de mettre toutes les bonnes conditions, en fait, ça fonctionne. Donc souvent, c'est à petite échelle. C'est à, C'est sur quelques kilomètres autour d'une petite île perdue au milieu de nulle part. Mais en fait, ça montre que ça fonctionne, donc qu'on est capable de le faire aussi. Donc si déjà on arrive à protéger quelques zones pour conserver cette biodiversité un peu sous cloche, bah, ça permettra, quand tout ça ira mieux, d'avoir au moins quelques spécimens d'un peu tout. C'est un peu l'arche de Noé, quoi.
Ouais.
Mais oui, c'est pas
réjouissant, c'est mais pas réjouissant, bon, ça reste quand même positif d'une certaine manière. Okay, et du coup, ce que tu disais aussi, un autre point qui peut être positif et intéressant à soulever, tu disais quand même tout à l'heure que ça avançait quand même dans le bon sens, qu'il y avait une inertie. Donc on ne voyait pas forcément les choses avancer dans le bon sens, mais qu'il y avait quand même des actions qui étaient mises en place et qui pouvaient avoir un impact positif, c'est ça, c'est un peu le message que...
Ouais, c'est un peu le message. Hein. Et l'exemple, c'est celui des aires marines protégées. Après, il y a plein d'initiatives qui se développent pour empêcher, notamment les pays qui déversent beaucoup de plastique à l'océan, empêcher que ce plastique quitte les rivières pour finir dans l'océan. Mmh. Il y a plein d'initiatives qui vont dans ce sens-là, donc ça reste très positif. Mmh. Ouais. Mmh. Même si on sait que le plastique qui est dans l'océan, il y est, et le ramasser, c'est un peu peine perdue, mais il y a aussi des initiatives qui ramassent le plastique dans l'océan, ça, il y en a beaucoup. Mais voilà, l'idée, c'est de faire tout ce qu'on peut pour endiguer ces phénomènes. Et chacun peut, à son échelle, en commençant par exemple, consommer moins de poissons, agir en fait.
Mmh. Ouais. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la viande, comme tu disais, mais qu'on ne parle pas forcément du poisson et de la pression sur l'océan
due à la consommation de poissons. Elle est vraiment énorme. Ouais. Quand on voit les chiffres, c'est assez impressionnant. Mmh.
Très bien. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur toi un petit peu plus, sur cette conscience écologique? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours un peu eu de base, ou est-ce que c'est un truc, tu parlais tout à l'heure de ta formation d'ingénieur dans le domaine agricole, et du coup, agro, pardon, et du coup de ta première expérience professionnelle. Et après, tu disais que tu avais voulu changer parce que tu ne te retrouvais plus là-dedans. Mm-hmm. Donc, c'est à ce moment-là que tu as commencé à prendre conscience de certaines choses.
Mm. Oui, je pense. Je ne pense pas que ce soit toujours quelque chose que j'ai eu en moi. Tu
as commencé le surf, excuse-moi. Tu as commencé le surf à quel moment?
Ado.
C'était ado, ouais, ok.
Vers 13-14 ans, je pense. Mais non, ce n'était pas quelque chose dont je me souciais. Donc globalement, ça n'impactait pas mon quotidien durant ma scolarité, enfin durant mon enfance, mon adolescence, et en tant que jeune actif, quoi. Je me posais pas vraiment ces questions. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de voyager, de découvrir des cultures, des pays, d'autres modes de vie, de voir aussi qu'on n'était pas du tout logé à la même enseigne et que nous, on imposait aussi un peu nos modes de fonctionnement et nos modes de vie à des pays en voie plutôt de développement ou beaucoup moins développés que nous. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose qui clochait un peu et que du coup, je ne me retrouvais pas trop dans cette posture de produire pour vendre de la nourriture à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter autre chose que ce qu'on leur fournissait, quoi. Donc, et puis surtout le côté production en grande quantité, avec beaucoup de packaging, beaucoup de plastique, beaucoup de tout ça qu'on retrouve sur le trottoir dès qu'on sort dans la rue, quoi. Puisque là-bas, il n'y a pas, encore une fois, dans certains pays, il n'y a pas du tout d'infrastructure pour gérer les déchets. Tout ce qu'on produit en termes de plastique, il finit quasiment instantanément dans la nature. Donc c'est des quantités astronomiques. Et ça m'a aussi fait prendre conscience de l'aberration du système, quoi.
Sans parler de l'exportation des déchets aussi.
Oui, en plus de
nous. Qui viennent potentiellement d'Europe, d'ailleurs, les déchets qu'on peut retrouver.
Si ça, et ça aussi, moi j'en étais pas conscient avant tous les scandales et que ça arrive un peu aux oreilles de tout le monde et qu'on en parle dans les médias, mais c'est aussi un énorme problème. Ouais. Donc oui, prise de conscience plutôt sur le tard dans ma vie active.
Par le voyage, en fait.
Par le voyage et par la découverte d'autres, d'autres pays, parce qu'ici, c'est vrai qu'on est plutôt, pas mal. Hein. On a de la gestion des déchets, du traitement d'eau. On essaie de faire attention au tri, on essaie de recycler, même si on ne recycle pas grand-chose en vérité.
C'est un autre débat, mais effectivement.
On est quand même à des années-lumière des pays en voie de développement, quoi, qui pourtant consomment la même chose que nous. Donc, ouais.
Ok. Et qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil question que je pose à tous les invités du podcast, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à une personne qui prend conscience un peu de tout ça et qui se dit waouh, il y a beaucoup de choses à faire. Par quoi je commence ?
Je ne sais pas si je suis bien placé pour donner des conseils. Hein. Honnêtement, c'est assez personnel comme cheminement, j'imagine. Et c'est très compliqué. On n'a pas tous la même sensibilité. Puis on n'est pas tous sensibles sur les mêmes choses non plus. Donc il y a tellement de choses à reconsidérer aujourd'hui. Qu'en fait, faut, je pense, être prêt à se remettre en question et à évoluer sur certains sujets aussi. Je pense que c'est ça le plus compliqué, en fait. C'est qu'on a nos croyances, on a l'impression qu'on a raison. Mais en fait, il faut être prêt à accepter qu'en fait, non, ce qu'on fait depuis X années, bah, c'est pas forcément bien, quoi. On peut faire mieux, on peut faire différemment. Donc, je pense être ouvert à se remettre en question et à se dire qu'on peut faire mieux. Ce serait ça, si c'est un conseil, je sais pas, mais... C'est pas très précis comme.
Non, mais c'est. Après, effectivement, comme tu dis, donner un conseil en particulier, c'est pas forcément non plus service. Ouais. Enfin, c'est bien d'avoir un schéma, un nouveau schéma aussi, d'avoir de nouveaux principes. Et je pense que ce que tu dis, c'est effectivement assez. C'est assez pertinent, le fait de remettre en question le fait que ce qu'on fait actuellement et qu'on estime peut-être aussi. Enfin, inchangeable, enfin, qu'on ne peut pas modifier parce qu'on a toujours fait comme ça et qu'on se dit pas non, pourquoi on ne pourrait pas faire autrement, de se dire que potentiellement on peut aussi. C'est un beau message.
Bon, si c'est un bon message, tant mieux. Alors.
C'est très bien. Basile, merci.
Ben, merci
pour
à
cet
toi.
Échange.
Très cool. Merci, merci de nous donner l'opportunité avec Nomads de parler de cette aventure en tout cas.
Ben, avec grand plaisir. C'est un grand plaisir d'échanger avec toi.
Très cool.
Et à bientôt.
À bientôt.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si oui, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast, aux pages Instagram de La Terre dans les Épinards, à la page Facebook, à la newsletter du site de la Terre dans les Épinards.fr. Et je reste bien évidemment ouvert aux commentaires et suggestions. Tu peux aussi bien sûr aller faire un tour sur le site internet de Nomad Surfing pour découvrir leur univers. Et en attendant le prochain épisode, prends soin de toi, de ton environnement et de ton porte-monnaie, et on se retrouve en pleine forme. Salut !